France Culture.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Louan Deniel, Inès Bouffartigue-Sébastien, Anouk Millot et Loïc Antoine, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique Alexandre Dang. Nous vous proposons aujourd'hui une sélection de 3 entretiens avec des reporters de retour de terrain. Nous évoquerons 3 territoires confrontés au dilemme de l'exploitation de leurs ressources naturelles dans le contexte du réchauffement climatique. En Namibie, Clotilde Ravel nous raconte la ruée vers l'or noir. En République démocratique du Congo, Guillaume Perrier nous emmène au cœur des mines de coltan, source de convoitises et de conflits. Et pour commencer, direction l'Asie centrale, l'écrivain voyageur Cédric Gras a remonté le cours du fleuve de l'Amu Darya pour comprendre comment la mer d'Aral s'est transformée en désert.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Bonjour Cédric Gras.
Bonjour.
Écrivain et géographe, voilà près de 20 ans que vous arpentez les territoires de la Russie, de la Chine et de l'Asie centrale, une vaste région aux contrées inhospitalières et marginalisées à laquelle vous avez consacré de nombreux livres. On citera Les alpinistes de Staline chez Stock, pour lequel vous avez reçu le prix Albert Londres en 2020. Votre dernier voyage a pour point de départ la mer d'Aral, située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, une mer intérieure dont les dimensions atteignaient près de 70 000 km carré dans les années 60 et dont il ne reste aujourd'hui qu'une toute petite surface. Des vallées de sable et de sel, des épaves de navires rouillés ont remplacé la mer et les ports de pêche. Et vous avez décidé, Cédric Gras, de remonter le cours des deux grands fleuves qui alimentaient autrefois la mer d'Aral pour comprendre comment et pourquoi elle avait disparu. Et c'est ce voyage que vous racontez dans l'ouvrage « Les routes de la soif » chez Stock et dans 2 documentaires réalisés avec Christophe Rella aux sources de la mer d'Aral diffusées sur Arte. Et puisque nous ne pouvions remonter ce matin le cours des deux grands fleuves, eh bien c'est celui de l'Amu Darya que nous emprunterons ensemble. Est-ce que vous pouvez commencer, Cédric Gras, par nous décrire la fantomatique mer d'Aral? À quoi ressemble cet espace laissé par les eaux qui ont disparu?
La mer d'Aral aujourd'hui, c'est devenu un désert. D'ailleurs, les Ouzbeks ne disent plus mer d'Aral, ils disent désert d'Aral, Aral Koum, en Ouzbek ou en Karakalpak. La mer d'Aral se situe dans une petite république autonome qui s'appelle le Karakalpakstan, mais ça reste dans l'Ouzbékistan, on va faire simple. Donc c'est les anciens fonds marins, en fait. La mer d'Aral était très peu profonde. En réalité, c'était pas une mer, c'était un lac salé. C'est ce qu'on appelle l'endoréisme en géographie, c'est-à-dire que les cours d'eau, le fleuve Amu Darya, en l'occurrence, et tous les affluents qu'il rassemble, eh bien, ne peuvent pas se jeter dans une mer ouverte, dans un océan ouvert. Donc ils viennent combler une dépression, une cuvette au milieu du continent. C'est ce qui avait donné la mer d'Aral. Mais maintenant que le fleuve se tarit, il n'y a plus assez d'eau qui arrive, il n'y en a plus du tout même, qui arrive dans cette ancienne cuvette. Et donc la dernière nappe d'eau aujourd'hui, elle se trouve à peu près 100 km du bout du fleuve. Donc elle s'évapore. Et je sais pas combien d'années ça va prendre encore, mais il reste 10% à peu près seulement de l'eau, par rapport aux années 60, par exemple.
Alors, il y a cette image que j'évoquais en introduction et que vous filmez longuement et qui est absolument frappante, c'est celle des navires rouillés qui sont échoués sur ce qui était donc les fonds marins qui sont aujourd'hui un désert. On voit des chameaux, des dromadaires qui se mettent à l'ombre de ces navires, le peu d'ombre qu'ils peuvent offrir. Ils sont complètement rouillés. Ils datent de l'époque soviétique?
Oui, bien sûr. Mais c'est un peu une image d'Épinal, un petit peu maintenant, de la mer d'Aral. Mais il faut savoir que ces bateaux, il y en a très peu maintenant, parce qu'ils ont été désossés, les gens localement sont allés revendre tout ça à la ferraille quand c'était pas trop rouillé, et donc les autorités, côté ouzbek par exemple, ont rassemblé quelques navires, il n'y en a plus une poignée maintenant, il y en a 6-7 dans un espèce de petit cimetière marin, quoi, qui est devenu un haut lieu de Moynac, où viennent les quelques touristes qui arrivent jusque-là, et puis nous, quand on est venu, par exemple, il y avait un mariage, c'est devenu un haut lieu de Moynac, c'est un drame, et en même temps, c'est l'endroit où on vient.
C'est
pour les événements heureux. C'est devenu une attraction, et voilà. Et puis c'est La mer d'Aral, encore une fois, était très peu profonde, donc le point de vue est pas très haut, mais c'est sur une ancienne petite falaise, et on domine eh bien, ce qui est devenu non plus un horizon bleu, mais un champ ocre, jaune, à perte de vue, quoi. Et c'est là qu'on a mis ces petits bateaux, il y avait un ancien phare aussi. Voilà.
Alors c'est un endroit étrange qui aiguise la curiosité du voyageur, mais pour les habitants c'est un lieu de drame puisque la disparition de la mer d'Aral est assez récente de mémoire d'habitants. Évidemment, elle est encore dans les esprits. Les plus anciens, et vous en rencontrez, se souviennent parfaitement de l'époque où il y avait encore un port et une intense activité de pêche.
Mon père, le père de mon père et tous mes ancêtres étaient pêcheurs. J'ai commencé à pêcher à l'âge de 14 ans avec mon père. Nous étions 4 personnes à bord. À cette époque, il y avait beaucoup de poissons. Nous pouvions partir pêcher 15 jours ou un mois. Ensuite, nous avions un mois de repos.
Quand nous nous sommes mariés, le niveau de l'eau était très élevé.
Nous nous sommes mariés en 1971.
Et il y avait beaucoup de poissons. Nous avions installé une yourte à cet endroit. Ici, il y avait de l'eau partout. Il y avait un port où beaucoup de bateaux allaient et venaient. C'était le bon temps. Après, on n'a plus eu d'eau. Seulement du sable.
Ali, un ancien pêcheur, et sa femme, aujourd'hui, tout autour de leur maison, tout est désertique. Cédric Gras.
Oui, Ali, bon, lui, il était mousse, en fait, quand il était jeune, il n'a pas été longtemps pêcheur, parce que malheureusement, la mer s'est retirée très très vite, et les bateaux se sont échoués, et on est allé chez lui, chez eux, sa femme nous a accueillis très sympathiquement, et c'est vrai qu'il nous expliquait qu'avant, ils étaient à un pâté de maison de la mer, quoi. Ils étaient sur le front de mer, et maintenant, il n'y a plus rien. Moïnac, c'était même presque une petite presqu'île qui était entourée par les eaux, et aujourd'hui, vous êtes entourés par le sable ou la pirogue. Alors, le gouvernement ouzbek essaye de planter une plante qu'on appelle les saksaouls, qui a la particularité, c'est une plante endémique qui veut bien vivre dans ce qui ressemble quand même à un enfer climatique et minéral, et qui pourrait aider à fixer les sols, parce que malheureusement, se sont déposés sur les fonds de la mer d'Aral énormément de défoliants, de pesticides, enfin tout ce qu'a pu charrier le fleuve à l'époque, puisqu'on en parlera j'imagine après, ce fleuve a été épuisé par notamment la monoculture du coton ou du riz, et quand il y a des tempêtes qui viennent remuer un peu le sable de la mer d'Aral. Ça a des conséquences sanitaires pour les populations qui sont restées sur les bords de la mer d'Aral.
Alors parlons-en justement, ce fleuve traverse une partie de l'Ouzbékistan où l'on cultive, vous l'avez dit, le coton le long de ses rives. C'est une culture qui demande beaucoup, beaucoup d'eau et ça paraît insensé dans cette région où, vous le rappelez régulièrement dans le documentaire, il ne pleut presque pas.
Il pleut très peu. Je pense qu'à Rennes, là, il y a 15 jours, il a plu... l'équivalent de 10 ans de précipitation en une semaine pour l'Asie centrale. C'est-à-dire que en Asie centrale, on a en gros des plaines désertiques et au Tadjikistan, des montagnes qui pourvoient en eau grâce à des glaciers. Les précipitations n'ont lieu qu'en montagne sous forme de neige qui se transforme en glace, qui ensuite fond pour permettre dans les déserts d'irriguer et de cultiver notamment le coton. C'est une culture qui est très très vieille en Asie centrale, le coton. Mais à l'époque soviétique, on en a fait quelque chose d'industriel, tout simplement. Et ça a fini par épuiser le fleuve Amoudaria par la multiplication des canaux d'irrigation. On a étendu la surface de ce qu'on appelle des oasis, en fait, en colonisant le désert grâce à un arrosage inconséquent et à des méthodes en plus d'irrigation qui aujourd'hui ne sont plus utilisées. Par exemple, les Ouzbeks essayent de développer le goutte à goutte, histoire d'économiser l'eau au maximum.
Alors ça, c'est un projet et certains vous l'évoquent, mais les techniques qui sont encore utilisées, qu'on vous décrive, qui sont impressionnantes, c'est qu'il s'agit d'inonder littéralement les champs.
C'est ça.
10 cm d'eau sur un champ pour que ce soit efficace.
Ouais.
Ça représente 4000 m3 d'eau par hectare. Et aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible ou est-ce qu'il y a une prise de conscience des limites de cette incroyable consommation en eau que demande le coton?
Bien sûr qu'il y a une prise de conscience, les Ouzbeks savent pertinemment. Les Turkmènes aussi, les Tadjiks aussi qui font du coton un peu en amont. On met en eau, c'était la technique d'agriculture soviétique. L'idée, c'est surtout maintenant de faire reculer les surfaces en coton, mais c'est compliqué parce que le coton, ça rapporte de l'argent plus que les choux, les carottes, les cultures maraîchères, je sais pas. Et puis c'est aussi un enjeu social de main d'œuvre, d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petites mains, des ramasseuses de coton qui viennent œuvrer dans les champs à l'automne. Il y a plusieurs récoltes. Du coton, il y en a deux, voire trois. Donc, il y a cette économie qui s'est mise en place à l'époque soviétique et faire reculer, ça c'est assez compliqué, d'autant que l'Ouzbékistan a connu une explosion démographique depuis la chute de l'URSS. En gros, ils ont multiplié leur population par deux pratiquement depuis 1991.
Et donc, ils sont dépendants de ces cultures.
Ils sont dépendants, ça représente une part non négligeable du PIB de l'Ouzbékistan, évidemment, et puis localement, c'est le seul emploi de beaucoup de gens encore. Alors avec le tarissement du fleuve, parce que la Moudaria apporte de moins en moins d'eau, notamment en aval, il est probable que par manque d'eau, ça reculera naturellement.
Dans les images d'archives que vous diffusez de l'époque soviétique, on voit ces impressionnantes récoltes de coton, mais vous l'avez dit, elles préexistaient avant, mais il y a eu une industrialisation à marche forcée. Est-ce que les récoltes sont aussi, les tas de coton sont aussi, ceux que vous avez vus sont aussi gros, aussi gigantesques que ceux de l'époque soviétique?
Ça ressemble à des grosses barbes à papa. Nous, on est allés s'allonger là-dedans avec les ouvriers de l'ancien kolkhoz. Aujourd'hui, c'est plus des kolkhoz qui sont chargés de former ces tas avant que ça parte à l'étape du tissage. Et c'est une fierté aussi nationale. C'est devenu presque une tradition. Oui, les récoltes sont pratiquement aussi conséquentes qu'avant. Alors, il n'y a pas que le coton. Il y a aussi quelque chose qu'on sait moins, c'est le riz, par exemple. Et ça, c'est assez impressionnant de voir les rizières en plein désert. Pareil, avec une mise en eau sur plusieurs centimètres, une évaporation très, très, très forte. Et c'est aussi lié à des traditions culinaires. C'est-à-dire, en Asie centrale, on mange un plat qui s'appelle le plof, qui est à base de riz. Et les gens veulent notamment la variété de riz du Khwarezm, qui est la région de l'aval, de la région de Khiva, qui est pas très connue, mais on connaît parfois la cité de Khiva, qui est un des joyaux d'art islamique de l'Ouzbékistan. Et il y a évidemment un attachement aussi très fort à ces cultures et à ces traditions.
Cédric Gras, en amont, la Moudaria suit la frontière avec le Turkménistan qui prélève lui aussi sa part des eaux via un canal dont la construction a été décidée à l'époque par Staline. Il s'appelle le canal de Karakoum, c'est l'un des plus longs du monde. Pour quelles raisons a-t-il été construit et est-ce qu'on a une idée des quantités d'eau qui sont prélevées par le Turkménistan via ce canal?
Au début, il devait même s'appeler le canal du grand Staline. Et puis, finalement, Staline est mort et c'est Khrouchtchev qui a achevé, en changeant d'ailleurs un petit peu le tracé, cet énorme canal. Alors, le Turkménistan, c'est un pays qu'on connaît très peu, qui est très fermé, qui est dirigé par une dictature assez sévère, et qui est un désert. C'est-à-dire que ce désert s'appelle le Karakoum. Et le Turkménistan, c'est pratiquement le désert du Karakoum, en fait. Il était peuplé par des nomades. Les Turkmènes étaient des nomades. Et à partir du moment où les Soviétiques arrivent, veulent sédentariser, développer une économie, ils veulent aussi initier une agriculture sédentaire, donc ils créent cet énorme canal à travers le désert qui pompe à peu près 40% voire plus de la Moudaria à l'endroit de la prise d'eau. Et ce canal rejoint notamment la capitale Ashgabat, qui est à 800 km du fleuve en plein désert. C'est un canal en plus qui est à même le sable, c'est-à-dire il y a beaucoup d'infiltration en plus de l'évaporation. Et puis dans les années 80, ce canal a même été prolongé jusqu'à la Caspienne. Et aujourd'hui, il est plus long que le Rhin. Bon, il n'est pas navigable comme l'aurait souhaité Staline, mais c'est un canal qui est absolument vital pour le Turkménistan. Ça représente plus de 90-95% même des apports en eau du pays. C'est-à-dire que sans le canal du Karakoum, il n'y a pas de Turkménistan aujourd'hui, enfin pas tel qu'on le connaît actuellement.
Et vous le disiez, c'est un pays très difficile d'accès, mais vous avez pu vous rendre à Ashgabat, la capitale. Quelques mots sur cette ville qu'on surnomme la ville de marbre blanc et qui est si inaccessible qu'on va profiter du fait que vous ayez pu vous y rendre pour que vous nous en disiez un petit peu mot, même si on s'éloigne un peu du fleuve.
On s'éloigne du fleuve, oui et non, parce que en fait, les eaux du fleuve, les gens d'ailleurs là-bas ne disent pas le canal de Karakoum, ils disent le Karakoum Daria. comme la Moudaria. Daria en persan, ça veut dire le fleuve. Et c'est-à-dire que les jeunes, par exemple, ont toujours connu ce canal. Pour eux, c'est presque une rivière naturelle. Et comme il n'y aurait pas de Turkménistan et d'économie de capital telle qu'on la connaît sans ce canal, finalement, pour eux, c'est une dérivation qui a été créée par l'homme, mais qui est devenue, enfin, qui fait partie du paysage, quoi. Astana, c'est le Kazakhstan. Ashgabat, pardon. c'est la capitale qui a sans doute, c'est le plus métamorphosé depuis la chute de l'URSS parmi ces ex-républiques soviétiques, parce que au Turkménistan, il y a du gaz et il y a eu toute une série de dictateurs un peu fantasques, notamment le Turkmenbashi, dont on parlait beaucoup dans les années 90, et qui a, en gros, rasé la vieille ville soviétique pour enchaîner des projets architecturaux plus ou moins délirants, un grand renfort de gaz au dollar, beaucoup de blanc, c'est son obsession, du marbre blanc, des dorures. Et par exemple, aujourd'hui à Ashgabat, si votre voiture n'est pas blanche, vous ne pouvez pas rentrer dans la capitale.
Pour ne pas contraster avec les grands bâtiments de marbre blanc.
Un effet d'ensemble, ça fait partie de ces, je ne sais pas comment il faut appeler ça, de ces caprices dictatoriaux. Mais il s'était fait construire notamment une statue de lui-même qui tournait avec la course du soleil dans la journée. Alors là, ses successeurs ont déplacé la statue et ont arrêté le mécanisme. Il ne tourne plus avec la course du soleil. Mais la statue est quand même là. Et par ailleurs, le successeur Berdimuhamedov s'est fait lui construire une grande statue de lui-même sur un cheval doré. Et là, c'est son fils maintenant qui est au pouvoir. Le père a initié un Sénat qui n'existait pas auparavant et dont il a pris la tête, évidemment. Donc, c'est devenu un peu népotique. C'est la famille Berdimuhamedov aujourd'hui qui est à la tête du Turkménistan. Il n'empêche qu'ils ont toujours besoin de ce canal du Karakoum, dont il faudra un jour enclencher la rénovation.
Ah, un canal vital, vous le disiez, pour le Turkménistan qui est un désert. Et cela crée des tensions avec les autres pays que le fleuve traverse, notamment l'Ouzbékistan, puisque les eaux qu'ils reçoivent ont été amputées, vous le disiez, d'une grande part, peut-être 40% du débit du fleuve. On remonte encore, Cédric Graal, le cours du fleuve, on arrive en Afghanistan, la Moudaria, alors pas en Afghanistan, mais le long de l'Afghanistan, la Moudaria longe la frontière entre l'Ouzbékistan et l'Afghanistan. Et c'est une frontière très particulière parce qu'elle est complètement fermée. Ici, les habitants ne peuvent même pas s'approcher des rives du fleuve.
Non, quand vous allez à Termez, qui fait face à l'Afghanistan, côté ouzbek, c'est barbelé, c'est des rondes de gardes frontières et les enfants des villages à côté, les gamins, ne peuvent pas aller...
Pour quelle raison?
Parce que l'Ouzbékistan a peur évidemment d'infiltration de ce qu'on appelle l'État islamique au Khorasan, a peur de l'influence de l'islamisme radical sur son territoire. C'est des raisons de sécuritaires essentiellement. De toute façon, ils prennent l'eau dans la Moudaria et donc vous avez des retenues un petit peu dans l'arrière-pays qui permettent aux gens de vivre, de cultiver, etc., etc., etc.
C'est très grave. Vous arrivez enfin au Tadji. Vous entreprenez une expédition sur le Fetchenko, c'est un glacier que l'on considère comme la principale source du fleuve de la Moudaria et donc de la mer d'Aral à plus de 2000 km de là. Sur ce glacier, à 4000 mètres d'altitude, se trouve une ancienne station scientifique, la station Gorbunov.
C'est la première fois que je viens ici. Et l'ambiance ici est magique. Nous imaginons comment ils vivaient un an ici.
On peut imaginer que dans les années 30, les gens ont fabriqué tout ça, en transportant tout à dos de chameaux et de yaks. Et tout ça a été réalisé pour la science. Dans les années 30, il n'y avait aucune raison de venir ici. C'était juste pour la science. Mais maintenant, nous ne faisons plus ce genre de choses.
Moi, je rêvais du Fetchenko. J'avais vu une fois cette station à la télévision, et si Dieu le veut, je rêvais de venir un jour ici.
Vos compagnons d'expédition tadjiks semblent très émus de découvrir ce lieu, cette station scientifique à 4000 mètres d'altitude. Qu'est-ce que ça représente pour eux?
Eux, ils connaissent de nom ce glacier, ils en apprennent le nom à l'école, et ils savent que leur pays est le château d'eau de l'Asie centrale. À 80%, les glaciers tadjiks pourvoient en eau le bassin de la Moudaria, et donc permettent aux Ouzbeks, aux Turkmènes, aux Afghans, j'ai oublié d'en parler, mais c'est vrai que les talibans aujourd'hui sont en train de construire un énième canal de détournement retournement qui va aggraver la situation. Et ces glaciers, ils sont fondamentaux. Et puis, c'est un deuxième souci maintenant. C'est-à-dire que vous avez déjà une sursollicitation du fleuve, vous avez déjà un tarissement du fleuve, et en plus, il y a la fonte des glaces qui menace en amont, sachant que c'est assez trompeur, parce que quand un glacier commence à fondre, il donne plus d'eau dans un premier temps. Et c'est vrai que ça fait un décalage d'un certain nombre d'années avant qu'on passe à la baisse, un seuil en deçà duquel le potentiel de fonte, lui aussi, va baisser drastiquement. Donc, les Soviétiques, dès les années 30, avaient une vue d'ensemble, puisque c'était l'URSS pour eux, tous ces pays étaient un seul territoire. Ils avaient compris que le Fetchenko, qui est le plus long glacier de montagne du monde, quand même, qui se trouve au Tadjikistan, qu'on connaît pas bien, ils avaient compris que ce glacier, c'était les sources de la Moudaria et qu'il fallait évidemment l'étudier.
Merci beaucoup Cédric Gras. Votre ouvrage « Les routes de la soif » est paru chez Stock et vos documentaires « Aux sources de la mer d'Aral » co-réalisés avec Christophe Relat sont accessibles sur la plateforme de Arte. Feeling like a poison. Can you see in my eyes, babe? We're sick of all our lies, yeah. La chanteuse ouzbek Shahzoda avec ce titre Hayati, sorti en 2019. Puiser dans les eaux du fleuve au risque d'accélérer la désertification, c'est le dilemme des pays d'Asie centrale. Et tandis que les scientifiques alertent sur la nécessité de se passer des énergies fossiles pour contenir le réchauffement, en Namibie, la course à l'or noir a commencé. Et c'est ce que nous raconte la journaliste Clotilde Ravel.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Bonjour Clotilde Ravel.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour le média en ligne Africa Intelligence. Vous écrivez également pour la revue 21, pour qui vous signez un long reportage en Namibie. La fièvre du pétrole s'est emparée de ce pays d'Afrique australe peuplé de seulement 3 millions d'habitants. Si la géologie des terres namibiennes n'a jamais été prometteuse, d'importants gisements ont été découverts au large de ses côtes. Le golfe d'Orange, dont les eaux froides sont traversées par de forts courants, fait figure de nouvel Eldorado de l'or noir, à condition que le forage, techniquement difficile dans cet endroit, y soit rentable. Et c'est ce qu'espèrent des hommes d'affaires et des fonctionnaires qui prospectent et qui démarchent depuis près de 20 ans, des pionniers qui pourraient se faire voler la mise par les géants du secteur, comme par exemple Philippe Stein, que vous avez rencontré en Namibie. C'est un Sud-Africain installé sur place. Il faut raconter que lorsqu'il commence à miser sur le potentiel pétrolier, Philippe Stein, eh bien, dans les années 2010, il est bien seul à ce moment-là.
Oui, j'écris dans le reportage qui fait presque figure d'illuminé avec les quelques autres qui croient beaucoup au potentiel de la Namibie, dont vous avez dit dans l'introduction que la roche n'avait pas été exploitée en termes pétroliers, parce qu'il y a des mines en Namibie, notamment de l'uranium exploité par des Chinois et des Français. Mais c'est vrai qu'en termes pétroliers, alors qu'on a l'Angola juste au-dessus, qui fait partie des principaux producteurs du continent, la Namibie avait toujours été considérée comme un pays qui ne valait pas le coup. Jusqu'à ce qu'on parvienne à parfaire des techniques de forage en eau ultra profonde. Là, on parle de profondeur de 3000 mètres de fond, qui est un record. Jusqu'ici, la Total Energy souhaite développer son gisement qui s'appelle Vénus à 3000 mètres de fond. Jusqu'ici, le maximum, c'était 2900 mètres. Donc, on est quand même sur des besoins de prouesses techniques. Et moi, mon objectif initial, quand je suis partie là-bas, c'était d'essayer de comprendre comment naît un État pétrolier, grâce à qui ou à cause de qui, ça dépend de comment on voit les choses. Et j'ai rencontré Philippe, justement, dans une petite station balnéaire sur la côte à Swakopmund. Et je me suis dit, cette histoire-là, elle vaut la peine d'être racontée.
Alors, sa société en 2014, qui s'appelle Rhino Ressources, obtient plusieurs concessions en mer. Que valent-elles à ce moment-là?
Alors, quand Philippe arrive en Namibie, il serre la main des autorités, il dit « voilà, moi ça m'intéresse ». Les autorités sont tellement contentes d'avoir un investisseur qui arrive qu'elles cèdent le bloc en échange de promesses de forage. C'est des forages qui coûtent très cher, donc c'est aussi normal que dans un pays qui n'est pas considéré comme attractif au début, l'arrivée soit pas trop chère, sinon il y aurait vraiment personne. Et du coup, Philippe prend ses petits blocs et puis ensuite démarre cette aventure d'exploration avec ses partenaires.
Mais est-ce que ça veut dire, du fait de ces concessions donc, qui sont très peu chères, dont le coût d'entrée est assez bas au début, est-ce que ça veut dire que l'État namibien lui-même ne croit pas dans son potentiel ?
Au sein de l'État namibien, il y a des personnes qui font la promotion du bassin d'Orange depuis des années. Notamment une personne que je cite également dans le reportage et que j'ai rencontré, Emmanuel Mulunga, qui a été vraiment le VRP de la Namibie sur toutes les conférences internationales où il était accueilli, mais en marge. Je veux dire, la Namibie c'était le petit pousset, la personne qui est toujours là. Bon, on dit que possiblement des choses existent, etc. Et lui, il prêche dans le désert pendant des années et des années. Chaque année, il revient aux conférences. Il y a une grande messe qui s'appelle Africa All Week, toutes les années qui est organisée au Cap, en Afrique du Sud. Et il revient et dit « Si, en Namibie, on a du potentiel, venez. » Il essaye d'attirer les investisseurs jusqu'à ce que ça marche au bout de 20 ans.
Alors, en 2017, les majors du pétrole commencent effectivement à investir en Namibie. En 2022, ce sont les premières découvertes, mais ce qu'on appelle la décision finale d'investissement, le FID, qui est une sorte de Graal, n'a pas encore été prise. Pourquoi ?
La décision finale d'investissement, elle contraint les opérateurs à engager vraiment les investissements. C'est la partie où on n'est plus dans les mots, on est vraiment dans l'action. Mais pour pouvoir prendre une décision finale d'investissement, il faut que tous les différents facteurs économiques, les négociations avec l'État aient été bouclées. Et dans le cas de la Namibie, ça prend du temps partout. Dans tous les pays pétroliers, ça prend du temps. Total Energy, en l'occurrence, parce que c'est a priori eux qui sont les plus prêts de signer cette FID, a besoin d'être sûr que son investissement vaut le coup, parce que derrière, il a évidemment des actionnaires à satisfaire.
Et alors, vous disiez, cette rentabilité, elle n'est pas du tout assurée, étant donné la profondeur des gisements, mais aussi un site qui est, écrivez-vous, traversé par des courants marins, il y a aussi la présence de gaz. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de la rentabilité, ce sont des forages qui sont aussi potentiellement dangereux pour les hommes qui vont l'exploiter, mais aussi pour la nature? Est-ce qu'il y a des risques de marée noire qui sont importants dans cette zone?
Alors, le risque pour la biodiversité, partout où on a des forages pétroliers, malheureusement, il est présent. Ensuite, la question technique, elle est également importante, parce que c'est très coûteux. Plus on va profond, plus c'est coûteux, évidemment. Donc, il faut s'assurer que le rendement, il soit derrière à la hauteur. Là, le cap que s'est fixé Total, c'est de descendre en termes de coût de production en dessous de $20 le baril. Et à ce moment-là, selon eux, ça vaut le coup de chercher à forer. Et ensuite, pour ce qui est du risque de marée noire, là, on est en général, c'est plutôt les tankers qui transportent le pétrole qui sont sujets à ces risques-là.
Alors, je reviens à notre figure de pionnier, le Sud-Africain Philippe Steyn, qui a donc monté cette société, qui a obtenu des concessions, puis finalement qui s'est, à la suite d'un conflit, retrouvé écarté de la propre société qu'il avait fondée. Aujourd'hui, il a trouvé une place dans une entreprise de logistique. Il faut expliquer que quand un secteur pétrolier se développe, il y a derrière tout un écosystème de sous-traitance qui se met en place, et ce sont des contrats à plusieurs millions, plusieurs milliards, je ne sais pas.
C'est l'unité de mesure. C'est l'unité de mesure dans le pétrole, les millions. Et Philippe, c'est vrai que c'est un peu notre pétrolier malchanceux dans cette histoire. Il a cru au potentiel de la Namibie dès le début. Il a investi, et puis voilà, sur fond de brouille avec les autres actionnaires, il a été évincé des choses, mais il est resté en Namibie parce qu'il veut pas renoncer à ce rêve-là qui le tient. Sa petite amie l'a rejointe, une Française. Ils vivent désormais à Swakopmund. Et c'est vrai que c'est un peu étrange de le rencontrer là-bas dans cette station balnéaire, tout le temps plongé dans le brouillard, parce qu'on est sur la côte, dans laquelle il fait pas extrêmement beau. Alors c'est la Namibie est un pays dont les paysages sont magnifiques, mais c'est on a un peu l'impression d'une personne qui s'est enterrée entre guillemets à la poursuite de son rêve là-bas. Et lui, il trouve que ça vaut le coup.
On peut peut-être d'ailleurs prendre le temps de décrire cet endroit, Swakopmund. C'est une petite ville que vous décrivez aux rues sablonneuses et aux maisons à l'architecture germanique. Swakopmund, est-ce que c'est un lieu qui est particulièrement révélateur de l'héritage historique, d'un certain héritage historique, en fait, à savoir l'époque où la Namibie était une colonie allemande?
Oui, absolument. On voit beaucoup à Swakopmund de retraités allemands qui portent des Birkenstock. Il y a des magasins également de ces sandales qui sont un peu qui représentent un peu la culture allemande. Et oui, ça dit beaucoup parce qu'en fait c'était le lieu de villégiature de la bonne société coloniale allemande qui se rendait sur la côte au temps de la colonisation. Cette ville porte encore beaucoup les stigmates architecturaux de cette colonisation, bien sûr.
Voilà, il y a les stigmates architecturaux, mais il faut aussi rappeler que l'histoire de la colonisation allemande en Namibie est émaillée de massacres, de génocides même. Je vous laisse nous rappeler, tout début du XXe siècle, ce qu'il se passe, et un événement qui a été reconnu il y a quelques années, par l'État allemand.
L'Allemagne a fini par reconnaître sa responsabilité dans des massacres perpétrés au tout début du XXe siècle contre les populations Herero et les Nama. La Namibie a été une forme de laboratoire en fait de ce qui s'est ensuite passé en Europe, avec des camps de concentration, on peut pas les appeler autrement, sur une île qui s'appelait Shark Island, l'île aux requins, et dans lesquelles des populations donc Herero et Nama étaient décimées et réduites aussi en esclavage en termes de, enfin voilà, des camps de travail et des camps d'extermination. C'est un génocide qui a été oublié. L'Allemagne a mis très longtemps à reconnaître. C'était 2021, le moment où ils ont reconnu leur responsabilité dans ce qui peut être, c'est ce que dit la déclaration, considéré aujourd'hui comme un génocide et qui revient enfin sur le devant de la scène, même si des réparations sont en négociation depuis des années et que pour l'instant la Namibie n'a perçu aucun euro, aucun dollar de ces promesses-là.
Et aujourd'hui, quelles sont les attentes de la population vis-à-vis des gisements de pétrole dont on parle? Est-ce qu'il y a au sein de la population une fièvre? Est-ce que la fièvre des pionniers que vous décrivez a gagné le reste de la population?
La fièvre, elle touche beaucoup le petit monde du pétrole, qui est un monde masculin, très refermé sur lui-même, qui se parle à lui-même aussi. La population générale, c'est encore très loin, toutes ces promesses de peut-être des barils qui vont un jour arriver. En plus, comme on est sur des localisations très très lointaines en mer, loin des yeux de la société civile, on n'a pas de, pour l'instant, sur le paysage namibien, sur la terre, l'impact du pétrole, en fait, c'est juste quelques sociétés pétrolières qui ont installé leur petit QG ça et là, avec le logo Total Energy, le logo Shell, et pour l'instant c'est encore très abstrait pour la plupart des gens.
Et il y a pourtant quelques figures, quelques hommes d'affaires, par exemple Knowledge Cathy, qui est quelqu'un qui est né dans les townships et qui a fait fortune grâce à la revente de licences pétrolières. Donc il n'y a pas encore d'exploitation du pétrole, mais il y a déjà des personnes qui sont arrivées à en tirer un profit. C'est quelqu'un de très connu en Namibie. Donc ça veut dire qu'il y a quand même l'émergence de l'idée que ce secteur va pouvoir profiter peut-être à une petite partie de la population, mais voilà, comment est-ce que cela est perçu par les Namibiens?
Pour l'instant, elle n'a pas profité à grand monde cette manne pétrolière qui n'en est pas encore une, mais qui en fait brasse beaucoup de millions, même avant même que le premier baril soit sorti, puisque on achète des blocs, on les revend, on fait des profits. Exactement. Total Energy a fait un forage ici qui est une découverte. Ah bah directement tout autour les autres blocs prennent de la valeur. Donc voilà, Knowledge Cathy, c'est un de ceux effectivement un des rares Namibiens à qui l'industrie a déjà profité, avec Emmanuel Mulunga, donc qui a été le promoteur du bassin d'Orange pendant des années et qui finalement ensuite a été rétribué. Et ils sont passés au statut de petites superstars locales, parce que dans un pays où le salaire moyen il est d'environ 860 $, tout de suite avec des moyens comme eux en ont, ils sortent du lot, et du coup leurs faits et gestes sont décryptés par la presse locale et on a un côté presque people en fait autour d'eux.
Sachant qu'il y a aussi des enquêtes qui ont été menées sur l'un comme sur l'autre, des accusations ou des suspicions en tout cas de corruption.
Absolument. Et d'ailleurs, Emmanuel Mulunga, depuis la sortie de l'article, a été interpellé pour une histoire de voiture qui lui aurait été achetée par un autre homme d'affaires, etc. Et le fond de tout ça, c'est vraiment l'origine des millions que l'un et l'autre ont pu accumuler au fil des années, alors même, encore une fois, qu'on n'a pas une seule goutte de pétrole qui est sortie, mais ils se sont achetés des voitures rutilantes qui font parler, évidemment, et la commission anticorruption namibienne a commencé à se pencher sur le sujet et à dire, attendez, ça, d'où ça vient? Comment, avec un salaire de fonctionnaire, vous avez réussi à acheter tant de maisons, tant de voitures, sur lesquelles, en plus, ils font floquer, et ça, c'est un détail qui est amusant, en Namibie, on peut faire floquer sa plaque d'immatriculation. Donc, Emmanuel Mulunga, par exemple, il a écrit « Oil One » sur la sienne, et « Knowledge », il a écrit « Knowledge ».
Vous disiez tout à l'heure que la fièvre du pétrole n'avait pas encore atteint le grand public ou la population. Et le pays est présidé depuis avril 2025 par une nouvelle dirigeante, Netumbo Nandi Ndaitwa. Est-ce qu'on sait si elle a fait des investissements pétroliers étrangers en Namibie une priorité? Est-ce qu'on sait aussi s'il y a du débat sur ce que la Namibie pourrait faire d'éventuels revenus pétroliers? On sait que la rente pétrolière est quelque chose qui est toujours à double tranchant pour un pays.
Netumbo Nandi Ndaitwa, elle est une grande promotrice de l'industrie pétrolière. Ça s'est vu notamment parce que elle a délaissé depuis qu'elle est arrivée tout ce qui est les initiatives en termes d'hydrogène vert. La Namibie, pendant longtemps, notamment sous le précédent président Hage Geingob, se voulait terre promise de l'hydrogène vert, etc. Et elle a mis un peu le holà là-dessus en se concentrant donc sur les mines et sur le pétrole. Ensuite, avant son arrivée, on avait déjà un fonds souverain qui avait été mis sur pied pour administrer les futurs revenus du pétrole qui devraient normalement arriver. On parle...
Pour qu'il n'échappe pas totalement à l'état namibien et ne profiter qu'aux investisseurs étrangers, c'était ça l'enjeu.
Exactement. Et elle est partisane d'une ligne assez dure de 30% de participation dans chaque bloc, etc. Ce qui fait évidemment bondir les investisseurs étrangers qui disent non mais attendez, c'est nous qui prenons les risques, etc. Mais en fait, la Namibie a vu comment ça s'est passé dans les autres pays africains qui sont en fait eux qui s'avancent davantage vers leur crépuscule pétrolier qu'autre chose. Et la Namibie, elle est au tout début, juste avant la bascule, et elle se dit, il faut qu'on réussisse à faire autrement. Parce qu'ailleurs, on a vu comment ça s'était passé, la malédiction des ressources, etc. Donc la Namibie essaye de faire autrement, mais ce n'est pas facile dans un secteur où on a autant d'intérêts, autant d'argent, de faire en sorte que tout le monde soit transparent et clean dans la façon de gérer les choses.
10 ans après les accords de Paris, alors que les alertes scientifiques se multiplient pour dire qu'il faut arrêter d'exploiter les hydrocarbures si on veut maintenir le climat au niveau où il est actuellement, est-ce que cette question fait partie du débat? Est-ce qu'il y a aussi des voix en Namibie qui disent qu'il faudrait peut-être laisser ce pétrole là où il est?
Le narratif principal, c'est de dire, attendez, vos grandes directives du monde occidental pour nous dire de pas exploiter notre pétrole, c'est un peu facile. Vous avez tous azimuts investi dans les énergies fossiles, et là, au moment où nous on y est, on devrait pas le faire. Donc le discours anti-énergie fossile, il est pas le principal moteur en Namibie. D'autant que, comme je le disais précédemment, la société civile s'est pas encore emparée de ce sujet parce que c'est lointain et que le premier baril de pétrole, s'il arrive dans les temps, ce ne sera pas avant 2030. Donc ça reste lointain.
Merci Clotilde Ravel. Votre reportage Namibie en attendant le pétrole, illustré par Benjamin Van Blanc, est à retrouver sur le site de la revue 21. Et direction à présent le Nord Kivu, une région riche en ressources minières stratégiques, mais en proie aux conflits armés depuis des dizaines d'années. On écoute le récit de Guillaume Perrier.
France Culture. Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Bonjour Guillaume Perrier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service international du journal Le Point. Vos deux derniers reportages nous emmènent dans les mines du Nord-Kivu, cette province de la République démocratique du Congo, ravagée depuis des années par les conflits armés et où la guerre a pris une nouvelle tournure depuis la prise de Goma en janvier dernier. La rébellion armée soutenue par le Rwanda contrôle un territoire qui s'étend désormais des rives du lac Édouard au nord jusqu'à Bukavu au sud, et c'est dans la mine de Rubaya que commence votre reportage. Nous sommes à 60 km de Goma. Il s'agit de l'un des plus grands sites d'extraction de coltan de la région. Est-ce que vous pouvez nous décrire, Guillaume Perrier, à quoi ressemble cet immense site minier de Rubaya?
Alors effectivement, Rubaya, c'est une ville minière comme il en existe dans beaucoup d'endroits dans cette région du Congo. C'est la plus grande mine à ciel ouvert de coltan au monde, puisqu'on y produit à peu près 20% de la production mondiale de coltan. Le coltan, c'est la colombite tantalite. C'est une association de deux minerais rares qui servent notamment dans l'industrie aéronautique et dans l'électronique. Donc c'est utilisé par tout le monde, hein, pour son téléphone portable, son ordinateur, notamment pour la fabrication des écrans. Voilà, donc c'est une ressource extrêmement précieuse, extrêmement stratégique, dont les rebelles du M23 ont pris le contrôle donc un an à peu près avant la chute de Goma. Hein, le contrôle de la mine de Rubaya a précédé celui de Goma, et sans doute qu'il y a un lien de cause à effet, puisque on estime que ça rapporte en taxes diverses à peu près 800 000 dollars par mois, grâce aux exportations clandestines depuis cette mine vers le Rwanda.
Alors oui, justement, on va revenir sur ces enjeux stratégiques en lien avec la guerre dans cette région. Peut-être encore pour rester sur la mine, grâce aux photos de votre comparse Vivien Latour, on voit ces collines défigurées par les terrassements à perte de vue. Vous l'avez dit, c'est une mine à ciel ouvert, mais il y a donc des puits où s'engouffrent ce qu'on appelle les creuseurs. Oui. Jusqu'où ces puits descendent-ils sous terre?
Alors effectivement, c'est très visuel. Il faut imaginer des collines très vertes, hein, puisque cette région est très arrosée, surtout en pleine saison des pluies. Et donc le dessus des montagnes au-dessus de Rubaya est totalement pelé. Ça a été complètement déboisé pour ensuite être creusé. C'est-à-dire dans cette région, de toute façon, dès qu'on creuse, on trouve du minerai, quel qu'il soit. Donc là, à cet endroit, il y a du manganèse, il y a de l'or, pas très loin, mais surtout donc ce coltan. Donc il faut imaginer des collines entièrement déboisées, blanchies, et dans lesquelles on a creusé une trentaine de puits. Alors moi, c'était la zone principale d'exploitation, il y avait une trentaine de puits, donc c'est effectivement des trous, hein, tout simplement, qui sont étayés à la va-vite par des morceaux de bois, des planches, etc., et qui peuvent descendre jusqu'à 70 mètres de profondeur. Donc ces puits sont constitués d'une sorte d'escalier, hein, en bois, dans lesquels de jeunes mineurs, parce qu'il faut être plutôt menu, pas très grand, pas très large, pour pouvoir descendre dans ce boyau. Et à peu près tous les 2 mètres, il y a donc un mineur, un creuseur, ce qu'ils appellent un creuseur, qui remonte des sacs de minerai en se les passant de la main à la main. Donc tout ça sans équipement, hein, évidemment. Les creuseurs n'ont ni masque, ni casque, ni protection contre quoi que ce soit. On est dans une poussière étouffante, vraiment asphyxiante. Moi, je suis descendu à quelques mètres. J'ose pas imaginer les conditions de travail tout au fond de cette mine. Donc, c'est évidemment extrêmement dangereux. Il y a des éboulements fréquents. Voilà, bon, c'est un travail de mineur.
Vous décrivez les bâches mises contre la pluie, les quelques tuyaux collés les uns aux autres pour amener de l'air jusqu'au fond du puits, cette extraction très artisanale. Qui sont ces creuseurs que vous dites très jeunes? Alors, quand vous dites très jeunes, justement, ce sont des adolescents? Est-ce que ce sont des enfants? Ce sont des mineurs? Et puis, d'où viennent-ils? Et combien sont-ils payés par jour?
Alors, c'est évidemment tout l'enjeu, hein, de savoir quel âge ils ont. Alors, le M23 qui contrôle aujourd'hui cette mine, et puis l'administration qui l'a mise en place, donc le bureau des mines qui est sous son contrôle, m'assure qu'il y a plus de mineurs, si je puis dire. Ça a été justement l'objet de beaucoup d'attention de leur part. Donc, un certain nombre de jeunes, sans doute trop jeunes, ont été écartés de ce travail. Moi, ce que j'ai vu, c'est évidemment, j'ai pas demandé les papiers d'identité aux gens qui creusaient dans ces trous. Ce que j'ai vu, c'était des adolescents qui pouvaient avoir 18 ans, qui pouvaient aussi en avoir 15 ou 16. Donc c'est difficile de déterminer. Encore une fois, c'était pareil dans les mines du Pas-de-Calais au début du XXe siècle. Pour descendre dans un boyau sous terre, il faut être plutôt petit, mince et léger. Donc ça explique aussi pourquoi on fait travailler de jeunes garçons dans ces mines. Je pense qu'effectivement le travail des mineurs de moins de 18 ans se poursuit. Il y a pas de raison que ça se soit interrompu aussi brutalement. Maintenant, pour ce qui est des salaires, puisque vous me posez la question, le salaire tourne autour de $5 par jour pour ces travailleurs. Faut savoir que ça a été augmenté récemment, c'était plutôt $2 ou $3 avant l'arrivée du M23. Donc ça a été rehaussé. Tout ce que tout le monde me décrit, c'est plutôt des conditions de travail qui se sont améliorées, une sécurité qui s'est améliorée depuis que le M23 est dans la région. Il y a moins de pillages, il y a moins de rackets par les différentes milices qui se concurrencent pour le contrôle de cette région. Depuis qu'il y a une milice qui tient le territoire, les choses vont quand même beaucoup mieux à entendre, encore une fois, les gens qui travaillent.
À qui appartiennent les concessions et les puits des mines de la région, en particulier de celle-ci, de Roubaïa? Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des gens qui possèdent un puits, deux puits? Est-ce que la concession fonctionne par la mine elle-même? Et comment ce système-là a-t-il ou pas été perturbé depuis l'arrivée du M23?
Alors, c'était des terres agricoles, tout simplement, il y a encore 25 ans. Les paysans, souvent, ont vu qu'ils pouvaient gagner plus d'argent en revendant leurs terres à des exploitants miniers qu'en les cultivant. Donc, c'est ce qui s'est passé depuis 25 ans. À partir du moment où on a trouvé ces gisements. Moi, j'ai rencontré des exploitants qui étaient des petits fonctionnaires locaux, des petits commerçants qui ont racheté un puits, parfois deux, trois, et qui, de fil en aiguille, ont amélioré ainsi leurs conditions. Donc, c'est plutôt des locaux, des gens qui n'appartiennent pas forcément à une intelligentsia politique, qui se sont retrouvés à la tête de ces concessions, donc qui, effectivement, rapportent un peu d'argent. Je pense que il y a une partie qui part... en taxe pour la milice qui contrôle l'endroit. Donc aujourd'hui, c'est le M23. Avant, encore une fois, c'était beaucoup plus incertain parce qu'il y avait une concurrence entre tous ces groupes et tous les exploitants miniers se plaignaient d'être raquettés, pillés de leurs ressources. Donc
là, le M23, voilà. Dans votre reportage, vous expliquez, il impose une taxe de $7 par kilo de coltan qui sort de la mine, mais il organise aussi des permis d'excavation, il supervise le transport. Est-ce que de facto le M23 administre, gère la mine de Roubaïa?
Oui, très clairement. Et voilà. Et quelque part, c'est encore une fois un progrès. Parce qu'avant, il y avait quand même une forme de racket et de pillage, mais qui n'était pas gérée, administrée de manière aussi efficace. Voilà. Donc, ils ont un petit peu rationalisé le processus, si je puis dire. Mais effectivement, ils en tirent profit.
Effectivement, les employés du bureau des mines, comme Patrice Gassori, qui vous dit, c'est pas pour défendre le M23, mais on produit davantage depuis que la sécurité est revenue. Alors, se pose aussi la question de savoir où partent les revenus tirés du coltan. Le M23 est un groupe armé congolais qui est soutenu par le Rwanda. Et la RDC accuse le Rwanda d'exploiter à son profit les richesses des mines congolaises. Alors, vos interlocuteurs sur place vous expliquent que ce n'est pas la raison principale du conflit, qu'il y a bien d'autres racines géopolitiques, historiques, dont on a déjà parlé d'ailleurs ici à Culture Monde. Mais sur cette question, aujourd'hui, de l'exploitation de la richesse des mines, que sait-on de la part qui transite ou qui est captée par le Rwanda?
Alors, 100% part au Rwanda. Oui. Mais l'explication est d'abord logistique. On se trouve dans l'est de la RDC, on est à 2500 km de Kinshasa. La République démocratique du Congo est un pays en faillite permanente, dans lequel il n'y a aucune infrastructure de transport ou de traitement de ces ressources minières. Donc la route logique et unique, elle est vers le Rwanda, même si cette route est quand même déjà en soi une aventure, parce que les 60 km entre Goma et Roubaïa, il faut entre 4 et 8 heures pour les parcourir, donc c'est quelque chose d'assez éprouvant. Le coltan donc est chargé dans d'immenses camions qu'on voit descendre de cette piste vers Goma. À Goma, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des comptoirs qui sont installés, avec notamment des négociants chinois qui sont très présents à cet endroit. Donc une partie est négociée directement à Goma par les grandes compagnies internationales. Une autre partie va effectivement vers le Rwanda, d'où il est exporté par l'aéroport de Kigali. Le Rwanda produit lui aussi du coltan, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Rwanda exporte plus qu'il ne produit. Donc on comprend bien qu'une partie de la production de RDC se retrouve en Rwanda. Ceci dit, ça n'est pas nécessairement le résultat d'un pillage ou d'une exploitation illégale. Encore une fois, pour des questions logistiques, les négociants sont obligés de se tourner vers le Rwanda.
Sauf que la RDC ne voit pas la couleur du profit ou des richesses qui sont tirées
non,
de ces
minerais. Effectivement.
Et c'est pour ça qu'elle a déposé une plainte il y a un an à Paris et à Bruxelles contre les filiales de la firme, alors pour le coup des derniers récipiendaires du minerai, en l'occurrence la firme Apple, pour, je cite, blanchiment et recel de crimes de guerre.
C'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est pas une situation nouvelle. Je veux dire, le pillage des ressources minières en République démocratique du Congo, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, qui concerne effectivement cette frontière avec le Rwanda, mais aussi toutes les autres frontières. Moi, je m'étais rendu il y a 2 ans en Zambie, par exemple, pour travailler sur les mines de cuivre qui se trouvent à la frontière avec le Katanga. On a une situation qui est encore plus critique à cet endroit. Voilà, donc le pouvoir à Kinshasa aujourd'hui choisit de stigmatiser cet aspect-là pour accuser le Rwanda de tous les maux, parce qu'on a bien compris que c'était aussi la fabrication d'un ennemi pour renforcer son propre pouvoir. Mais, alors, je ne nie pas cette réalité, mais voilà, c'est une explication un peu rapide aussi pour expliquer ce conflit. Donc, c'est ça qui m'intéressait aussi de montrer en allant dans ces mines.
Et de faire la part des choses, et vous le disiez, on le lit dans vos reportages, beaucoup d'interlocuteurs vous expliquent que, selon eux, la présence aujourd'hui du M23 dans le territoire et sur les mines n'est pas motivée principalement par la question de l'exploitation des minerais. À Goma, où vous vous êtes rendu également, Guillaume Perrier, la ville commence à reprendre timidement de la couleur et de la vie, notamment au niveau économique, même si c'est encore très précaire. Et vous avez notamment constaté que sur le port lacustre du lac Kivu, les activités de transport ont repris. C'est une voie cruciale puisqu'elle permet une circulation vitale dans la région, à défaut de pouvoir passer par les routes.
C'est ça, oui. Bah encore une fois, voilà, le manque d'infrastructures de transport, l'absence quasiment de routes pour relier les deux grandes villes, donc Goma au nord Kivu et Bukavu au sud Kivu. La route principale, c'est par le lac. Donc il y a cette liaison par bateau qui se fait 3-4 fois par jour avec de gros ferries. Et donc c'est vrai que c'était intéressant de voir le redémarrage économique à travers ça, et puis notamment l'exportation des produits agricoles. Donc on voit des sacs de manioc, des bidons de lait. On voit l'activité reprendre, on voit que les gens recommencent à circuler entre ces deux grandes villes. On le voit aussi au redémarrage du commerce, de l'agriculture, des marchés. Enfin voilà, on sent que ça redémarre. Tout ça est quand même empêché par une raison principale, c'est la fermeture des banques. Le souci principal des habitants aujourd'hui à Goma, c'est ça, c'est le fait de ne pas pouvoir toucher leur salaire. Les salaires sont bloqués dans les banques à cause des sanctions imposées par Kinshasa. Et donc les gens sont obligés d'aller au Rwanda pour retirer de l'argent et revenir ensuite à Goma. Donc c'est une situation assez compliquée qui fait que l'économie est vraiment dans une situation de paralysie quoi en ce moment.
Et vous dites que le M23 tente de mettre en place un système bancaire alternatif pour pallier à ce blocage. À Goma, justement, vous rencontrez les autorités politiques du M23, l'Alliance Fleuve Congo, qui est dirigée par Corneille Nanga. Quelles sont aujourd'hui les intentions militaires de l'Alliance Fleuve Congo / M23 dans la région? Est-ce qu'il s'agit vraiment, comme cela a été déclaré, de marcher à grands pas sur Kinshasa, je cite Que savons-nous et que vous dit-il de ses intentions militaires?
Alors, Corneille Nangaa, effectivement, tient ce discours. Lui a pour objectif de libérer le Congo. Il faut rappeler quand même que c'est l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, qu'il estime être le responsable de cette situation, puisque c'est lui, à l'époque, qui avait validé l'élection de Félix Tshisekedi à la présidence congolaise, alors que cette élection avait été truqué d'une manière totalement caricaturale. Donc il explique lui-même, c'est moi qui ai fabriqué le monstre, maintenant c'est à moi de vous en débarrasser.
Il dit qu'il a validé cette élection sous pression militaire.
Oui, bien sûr, oui, c'est ce qu'il raconte. Donc il a validé cette élection à la base pour assurer une forme de transition après le pouvoir de Kabila, et puis pour éviter l'arrivée au pouvoir de cet opposant qu'il estimait totalement incapable de remplir la fonction.
Donc l'objectif, c'est renverser Tshisekedi.
C'est ce qu'il affirme. Je pense que le M23 est plus pragmatique et plus réaliste que ça. Le M23 aujourd'hui est une force certes importante sur la carte congolaise, mais qui n'a pas forcément les moyens d'une telle opération militaire. Maintenant, on voit que c'est aussi une coalition, puisque Corneille Nangaa, le M23 est un groupe, comme vous le disiez, congolais, mais qui est composé de Tutsis, congolais, donc ce qui explique le soutien dont il bénéficie de la part du Rwanda. Corneille Nangaa est complètement extérieur à cette mouvance, et donc il y a une forme d'alliance. L'alliance fleuve Congo, c'est ça. C'est une alliance qui est amenée peut-être à s'élargir. L'ancien président Kabila a aussi manifesté sa volonté de rejoindre cette coalition. Donc tout dépendra de l'ampleur de cette coalition et de leur capacité ensuite à éventuellement renverser l'actuel président.
Alors, en attendant de savoir quelle sera la suite de l'expansion ou pas du groupe M23 sur le territoire congolais, sur les territoires qu'ils contrôlent, ce qui est certain, c'est qu'ils ont l'intention de rester, voire de se substituer aux autorités locales. À quoi l'avez-vous noté, remarqué sur le terrain?
Oui, alors c'est déjà largement le cas. Alors, mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que le M23 n'a pas une volonté, n'a pas de velléité séparatiste. Ils n'ont pas installé leurs propres emblèmes, leurs propres drapeaux. C'est pas une république du M23. Ils sont vraiment dans l'optique de contrôler le Congo et de commencer la révolution, comme ils disent, depuis Goma. Voilà. Donc, mais effectivement, ils ont installé leur propre administration. Alors, à quoi on le voit, c'est très simple. Moi, pour me rendre compte un petit peu justement de ce qui s'était passé depuis la prise de pouvoir de janvier, je suis allé dans les écoles. Les écoles primaires, c'est un bon moyen de voir quelle partie de la population est partie, quelle partie est restée. Donc, on voit qu'il y a à peu près 20% des élèves qui ne sont pas revenus depuis les heures de janvier. Donc ça veut dire qu'à peu près 20% de la population a quitté Goma à la suite de cette prise de contrôle du M23, et que donc ça représente la part à peu près des gens qui étaient, proches du régime de Kinshasa et donc dépendants de cette administration. Ceux-là ont été remplacés par des gens loyaux au M23, évidemment, et il y en a beaucoup qui vivaient à Goma, donc à peu près 80%, qui s'accommodent ou qui se satisfont de cette situation. Donc on a une administration qui est aujourd'hui plutôt favorable au M23.
Merci beaucoup Guillaume Perrier. Vos reportages accompagnés des photos de Vivien Latour sont à lire sur le site du journal Le Point.
Imetawala fasi yote, oga umeshika kila mutu. Mauaji yametawala fasi yote, wengine wanakosa makao, wengine wanapoteza wazazi wao, wengine wanapoteza watoto wao. Sango ya bitumba na Kongo, efe singa mawa na kolela. Sisi ni watoto wa baba moja, kwa nini twauana wakati wote? Tuombeani, tusaidiani, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe. Tuombeani, tusaidiani, tushikane kwa mkono, ili mauaji yaishe.
watoto wa baba moja. Kwa nini twauana wakati wote? Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono ili mauaji yaishe. Tuombeane, tusaidiane, tushikane kwa mkono ili mauaji.
Umjoa signifie unité en swahili et c'est aussi le titre de cette chanson sortie en 2023 de Ben Mann, l'artiste congolais originaire de Goma, la capitale du Nord Kivu. Merci beaucoup à Guillaume Perrier, Clotilde Ravel et Cédric Gras d'être passés dans le retour de terrain. La semaine prochaine, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série spéciale de grands entretiens. Les écrivains racontent le monde. Quatre grandes voix de la littérature contemporaine nous partagent leur regard sur leur pays d'origine. Et on commence lundi avec l'écrivaine franco-comorienne Toufat Moutari.
Mana esila chavo tusali sana tutika bitumba wana ndezambe akupambola biso.